Vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h. À la une, les États-Unis achèvent leur salve de frappe contre des infrastructures militaires iraniennes. Téhéran a riposté en ciblant des bases américaines à Bahreïn, en Irak et en Jordanie, élargissant dangereusement le conflit. La guerre en Ukraine, Vladimir Poutine accuse Kiev de terrorisme d'État. L'Union européenne fait de même envers Moscou. La Tunisie fait face à la sécheresse. Les agriculteurs doivent de plus en plus s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique qui touche le pays. À suivre dans ce journal. En France, les élections, c'est dans 8 mois. Philippe Gosselin, député de la droite républicaine, soutient le candidat Bruno Retailleau. Il plaide pour une candidature unique à droite et au centre. Vous l'entendrez. La guerre entre l'Iran et les États-Unis connaît une nouvelle poussée de fièvre après 2 jours consécutifs de frappes américaines sur son territoire. Téhéran a riposté tout azimut contre des positions américaines dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Et le ton monte, il faut le dire. Encore, l'Iran promet désormais une nouvelle stratégie, je cite, pour briser son ennemi, alors que les tensions s'aggravent également dans le détroit d'Ormuz. Les détails avec Nadia Bencher.
Une riposte d'envergure et une nouvelle menace adressée à Washington. Après les frappes américaines contre son territoire, l'Iran affirme avoir attaqué des positions américaines en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, en Irak et aux Émirats Arabes Unis. En Jordanie, 10 missiles iraniens ont été détruits par l'armée. Au Koweït, une attaque de drone a provoqué un incendie dans un complexe résidentiel de la capitale sans faire de victimes. Et à Erbil, dans le Kurdistan irakien, les gardiens de la révolution disent avoir attaqué des bases américaines. Cette offensive répond à une 2e journée consécutive de frappes américaines en Iran. Le CENTCOM affirme avoir visé des sites de défense aérienne, des radars et des installations maritimes des gardiens de la révolution. Selon les médias d'État iraniens, au moins 11 personnes ont été tuées dans ces bombardements. Parmi elles, 4 ont péri contre un mariage dans le district de Sirik, dans le sud-est du pays, où une 50aine de personnes ont également été blessés. Téhéran dénonce un crime de guerre. L'armée américaine, qui n'a pas commenté directement cette frappe, affirme de son côté ne jamais prendre pour cible des civils. L'Iran prévient désormais Washington qu'il doit s'attendre à une nouvelle stratégie destinée à briser les fondements de son ennemi et menace également tout pays coopérant avec l'armée américaine. Autre foyer de tension, le détroit d'Ormuz. 2 pétroliers ont pris feu après avoir heurté des mines selon Téhéran. Lundi, 2 marins philippins avaient déjà été tués dans l'attaque d'un pétrolier saoudien. Conséquence de cette nouvelle escalade, repasser au-dessus des $90 pour la première fois depuis fin juillet.
Merci pour les précisions de Nadia Bencher. Le Premier ministre israélien, Netanyahou, a de son côté affirmé qu'Israël n'avait pas l'intention de se retirer des zones qu'il contrôle dans ce territoire palestinien ravagé par la guerre. Je cite, annonce lors d'une rare visite dans la bande de Gaza du Premier ministre israélien. Ne nous arrêtons pas car nous éliminons jour pour jour, je cite, les terroristes qui nous menacent, a-t-il dit. Un accident de bus dans la péninsule du Sinaï en Égypte a fait 22 morts et 28 blessés. Le véhicule transportait au total 43 personnes, dont 22 ressortissants de Jordanie. Les causes de l'accident n'ont pas été encore dévoilées. La paix est toujours hors de portée entre l'Ukraine et la Russie. Le président ukrainien a ainsi prévenu l'aviation civile et les partenaires de Kiev que les drones ukrainiens rendraient dangereux d'emprunter l'espace aérien russe. Un avertissement que son homologue russe a qualifié de terroriste. L'Ukraine ne veut pas que des vies innocentes soient perdues, c'est pourquoi nous avertissons nos partenaires. Et les jours sûrs dans le ciel russe sont révolus, a déclaré Volodymyr Zelensky. Ursula von der Leyen considère l'attaque ratée sur l'aéroport de Leipzig en août comme une attaque menée avec du matériel militaire par des agents russes sur le sol de l'Union européenne. Nous ne la tolérons pas, a ajouté la présidente de la Commission européenne. En Tunisie, ce n'est plus seulement le manque de pluie qui inquiète, mais une chaleur de plus en plus intense qui accentue la pression sur des ressources en eau déjà fragiles. Face à cette nouvelle donne climatique, les agriculteurs sont contraints, il faut le dire, de repenser leurs pratiques et de chercher des modèles plus économes et plus résilients. Parmi les pistes avancées, l'agroécologie ou encore encore la régénération des sols. Les explications de Kamel Gargouri, professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'Institut de l'Olivier.
Bon, la sécheresse, nous, on est habitués, surtout au niveau de la période estivale, qui est généralement très sèche tout autour du bassin méditerranéen et particulièrement dans la rive sud. On est habitués à ça. Mais ce qui est difficile, c'est que en plus de la sécheresse, il y a une augmentation très, très importante de la température. On a plus d'évapotranspiration, plus de besoins et avec des ressources hydriques qui sont déjà très fragiles. Avec une exploitation assez importante des nappes, et qui peut être une surexploitation, qui peut conduire à un épuisement progressif.
Kamel Gargouri, certains agriculteurs se tournent aujourd'hui vers l'agroécologie dans l'espoir de développer une agriculture plus durable. Est-ce que cette approche constitue une solution viable pour l'agriculture tunisienne et dans quelle mesure ces pratiques se développent-elles réellement auprès des agriculteurs ?
Les agriculteurs se tournent vers des systèmes plus diversifiés, où on a plus d'apports de matière organique, donc on régénère les sols, et il y a maintenant le terme d'agriculture régénérative, et les agriculteurs se tournent un peu vers ça, et aussi en diversifiant leurs produits, en ayant plus qu'un produit, donc moins de fragilité face au marché. Les agriculteurs sont à la recherche de solutions, et l'une des solutions qui est l'agroécologie, qui est une bonne solution, mais qui est une solution, disons, de moyen à long terme, parce que quand on veut régénérer la fertilité du sol, améliorer sa capacité de rétention en eau et augmenter le réservoir en eau, donc pour justement valoriser au maximum l'eau qui arrive par des épisodes violents de pluviométrie, là, ça prendra du temps. On est sur des solutions qui donneront des résultats à moyen et long terme, mais il y a une conscience qui se développe au niveau des agriculteurs vers un besoin de changement, et l'une des voies de changement, c'est cette agroécologie.
C'était Kamel Gargouri, professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'Institut de l'Olivier, au micro d'Agnès Gilles, était également l'invité de Grand Angle ce soir, juste après le flash de 18h. La France aura dans 8 mois un nouveau président ou une nouvelle présidente. Pour le moment, les extrêmes sont en tête au premier tour. C'est en tout cas le résultat de plusieurs sondages. Au centre, les anciens premiers ministres comme Édouard Philippe ou encore Gabriel Attal sont eux aussi candidat. Il y aura également une primaire au Parti Socialiste. Philippe Gosselin, de son côté, député de la droite républicaine et vice-président de la Commission des lois, soutient le candidat Bruno Retailleau. Il plaide pour une candidature unique à droite et au centre. On l'écoute.
Il va falloir quand même s'organiser. Hein. On ne peut pas laisser l'élection présidentielle prise en étau entre Mélenchon d'un côté et Le Pen de l'autre. Ça, je m'y refuse. Le travail que nous allons avoir à faire, élus, responsables et tous ceux qui ont le souci de l'intérêt de la France, ça va être dans les semaines et dans les petits mois qui viennent de travailler à l'émergence de cette candidature unique. Et on ne pourra pas se contenter d'un rafistolage entre différents courants ou différentes sensibilités à la veille ou l'avant-veille de l'élection présidentielle. Ça doit se travailler peut-être plus encore qu'avec la primaire sur un programme, sur un projet qu'on peut présenter, qu'on doit présenter à nos concitoyens. Il devra y avoir aussi, je le pense très sincèrement, au-delà de l'élection présidentielle, un contrat de mandature, un contrat de gouvernement. Ça veut dire aussi une action collective, une proposition commune pour les élections législatives qui vont suivre.
Donc, mais ce que vous dites là, Philippe Gosselin, vous parlez de contrat de mandature, de contrat de gouvernement, ça, ce sont des termes qui ont déjà été utilisés ces dernières années, même ces dernières décennies. Et pourtant, il y a un mouvement de fond en France, une montée des radicalismes, disons, hein, avec cette poussée depuis longtemps maintenant de Marine Le Pen, cette poussée également de l'extrême gauche. Cela répond à une volonté populaire et à une demande d'un véritable changement, d'un changement profond aujourd'hui en France.
Ça correspond sans doute à une demande de changement profond. Moi, je fais partie de ceux d'ailleurs qui considèrent qu'il y a une attente d'une vraie politique de droite, mais une vraie politique de droite, ce n'est pas nécessairement bien loin s'en faut, celle de Mme Le Pen. Je rappelle que sur le plan économique, la vision de Mme Le Pen est en fait assez convergente avec celle de LFI. Hein. On a vu à combien de reprises il y avait eu des votes communs des Insoumis et des députés RN à l'Assemblée, notamment sur des lois de finances, de sécurité sociale, mais aussi sur d'autres propositions. Et ça, moi, je n'en veux pas pour le pays. Donc je pense qu'il y a effectivement une attente de droite.
Vous parlez d'une attente de droite aujourd'hui, il y a aussi une attente de gauche radicale. Cela se voit et cela se traduit dans les études d'opinion. Aujourd'hui, la personne qui représente la gauche en France, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Mais parce qu'il a réussi aussi à préempter le débat. Et effectivement, vous avez aujourd'hui une partie de nos concitoyens français qui veulent renverser la table. Et de ce point de vue-là, renverser la table avec Mélenchon, c'est sans doute plus profitable qu'avec Glucksmann, Faure ou même Bernard Cazeneuve.
C'était Philippe Gosselin, député de la droite républicaine et vice-président de la Commission des lois, au micro de François-Xavier de Calonne. Et durant cette campagne, l'énergie sera au cœur des préoccupations. Je vous propose d'écouter Marc Ferracci, ex-ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Justement, il met en lumière les enjeux liés au détroit d'Ormuz. On l'écoute.
Sera au cœur de la campagne pour au moins deux raisons. D'abord parce que c'est une question qui touche au quotidien des Français. La question des prix de l'électricité, la question du prix du gaz, la question du prix de l'essence. Et on le voit aujourd'hui avec le conflit qui a lieu au niveau du détroit d'Ormuz, qui fait monter les prix du baril et qui donc fait monter les prix à la pompe. Mais c'est aussi une question pour le devenir de la nation. Et ici, il y a un cap qui a été posé par Emmanuel Macron. Il y a une stratégie qui consiste à sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. C'est un débat très important, c'est un débat qu'il faut que nous ayons, parce que aujourd'hui, toutes les forces politiques n'ont pas forcément les mêmes idées sur la stratégie à avoir pour l'énergie dans notre pays. Moi, je pense que ce cap est le bon, parce qu'on le voit bien, être dépendant du gaz et du pétrole importé, c'est d'abord très coûteux. Ça nous coûte 60-70 milliards d'euros par an. Notre balance commerciale. Et puis, c'est surtout une forme de vulnérabilité qui s'impose dès qu'il y a une crise à l'autre bout du monde. C'était le cas en 2022 quand Poutine a fermé le robinet du gaz. C'est le cas aujourd'hui avec la crise au Moyen-Orient. Donc, on a besoin de sortir de cette vulnérabilité, on a besoin de sortir de cette dépendance. Et pour cela, on a un cap qui consiste à miser sur l'électrification.
Cette question, elle intéresse particulièrement les citoyens. Cela touche à leur pouvoir d'achat. Vous l'avez dit, enjeu, la géopolitique, également la politique intérieure, la politique sociale du gouvernement français, mais aussi des différents gouvernements européens. L'Europe est-elle suffisamment unie aujourd'hui sur cette question ?
Je pense que l'Europe a fait des choix qui, collectivement, sont courageux. Elle a fait le choix de sortir de la dépendance au gaz russe au moment de la crise qui a commencé avec l'agression russe en Ukraine. Elle a aujourd'hui un cap qui assume de traiter le nucléaire comme une énergie pilotable et une énergie très importante. Ça n'a pas toujours été le cas en Europe. Donc l'Europe a bougé sur la question énergétique et je trouve qu'elle a bougé plutôt dans le bon sens. Maintenant, chaque pays a, vis-à-vis de la question du pouvoir d'achat sur l'énergie, des réponses qui peuvent être différentes. En France, nous avons fait le choix, face à la crise qui a lieu dans le détroit d'Ormuz, d'aides ciblées, c'est-à-dire d'aides qui vont vers les ménages qui en ont le plus besoin, vers les gros rouleurs, vers les ménages modestes, parce que le saupoudrage des aides, et en particulier la baisse de la fiscalité indifférenciée sur l'essence et sur l'énergie en général, serait extrêmement coûteuse. On parle de 10 à 15 milliards d'euros, et serait surtout très inefficace, parce que aider ceux qui n'en ont pas besoin, aujourd'hui, c'est quelque chose dont nous n'avons pas les moyens. Et donc je pense que face à cette crise, les réponses de court terme qu'a choisi la France sont les bonnes. Et au niveau européen, on a besoin de garder ce cap de la décarbonation, c'est-à-dire de la sortie de la dépendance aux énergies fossiles. Je pense que nous allons le garder.
Et c'était Marc Ferracci, ex-ministre de l'Industrie et de l'Énergie et député des Français établis hors de France, au micro de François-Xavier de Calonne. Dans le reste de l'actualité, le cinéaste français Jean-Paul Rapneau est décédé à l'âge de 94 ans. On l'a appris aujourd'hui. En 1990, il avait connu son plus grand succès avec Cyrano de Bergerac, avec Gérard Depardieu. Il avait également dirigé Jean-Paul Belmondo, Yves Montand ou encore Isabelle Adjani. Et puis enfin, pour terminer, une info sport, un maillot, il faut le dire, singulier. Aujourd'hui, l'OGC Nice a dévoilé son troisième maillot dédié à la nouvelle saison du championnat de France. Cette nouvelle tunique unique, riche en symboles, rend hommage aux 86 victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Un maillot sur lequel nous retrouvons les 86 étoiles, donc en hommage aux 86 victimes. Radio Orient, il est 17h et bientôt 15 minutes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 18h.